Chapitre 20. Ce n'était pas seulement la discussion sur ce mariage que mademoiselle de Puylaurens ne pouvait pas supporter, ainsi qu'elle l'avait dit à Geneviève, c'était aussi, c'était surtout le mariage lui-même. Cette petite, est-il possible ? À ce moment, Adélaïde était entrée pour raconter ce qu'elle venait de voir. Mais mademoiselle de Puylaurens ne lui avait même pas permis de commencer son récit. « Ouvrez une fenêtre !» avait-elle dit. Une fenêtre ouverte était, au château, un fait tellement extraordinaire qu'Adélaïde avait regardé sa maîtresse sans bouger, se demandant ce qu'elle devait faire. « Vous n'entendez donc pas ce qu'on vous dit ? Ouvrez cette fenêtre !»« Mais il fait froid !» Ce n'était point l'habitude de mademoiselle de Puylaurens de parler sur ce ton à ses domestiques, mais, au contraire, toujours avec douceur et sans s'impatienter jamais. Adélaïde obéit, indignée, mais d'un autre côté, satisfaite de voir dans quel état de colère était sa maîtresse. La petite paierait cela. « Maintenant, laissez-moi, » dit mademoiselle de Puylaurens. « Si l'on vient pour me voir, je n'y suis pour personne. » Elle était dans un état d'émotion et d'anxiété qui rappelait les crises que M. de Mussidan avait si souvent provoquées au temps où elle espérait le sauver, et aussi celle qui s'était tant de fois répétée avec Sébastien et Frédéric. En serait-il donc de la fille, comme il en avait été du père et des frères? Était-il possible que cet enfant si douce, si tendre, d'une humeur si facile, d'une nature si droite, d'un cœur si bon et si généreux, fût perdu à jamais? La malédiction de Dieu s'abattrait donc ainsi successivement sur tous les membres de la famille? Et pendant plusieurs heures, elle était restée accablée, insensible à ce qui se passait autour d'elle, suivant sa pensée, ou plutôt allant d'une idée à une autre fiévreusement, sans pouvoir s'arrêter à rien de précis. Ce fut un sentiment de froid très vif qui la rappela à la réalité des choses matérielles. Elle était glacée, avec des frissons et un claquement de dents. Elle alla fermer la fenêtre, puis elle sonna pour qu'on allumât le feu qui était toujours attisé dans la cheminée. Ce fut Geneviève qui entra. « Vous avez besoin de quelque chose, ma tante ?»« Je voudrais du feu, j'ai froid. » Geneviève l'alluma elle-même et il ne tarda pas à flamber, car c'était une des précautions de mademoiselle de Puylaurens d'avoir dans ses bûchers des provisions de bois sec pour plusieurs années à l'avance. Mais les frissons et les claquements de dents ne cessèrent point, malgré la chaleur qui ne tarda pas à remplir le salon, et malgré la flamme qui frappait en plein mademoiselle de Puylaurens, assise en face de la cheminée. « Je vais vous préparer une tasse de tisane bien chaude, » dit Geneviève. « Je veux bien, mon enfant, j'ai pris un mauvais froid. » La tasse de tisane ne fut pas plus efficace que ne l'avait été la flamme de la cheminée. Tremblant toujours, mademoiselle de Puylaurens voulut se mettre au lit et elle envoya chercher le docteur Azéma qui arriva aussitôt. Il se fit expliquer comment ce refroidissement s'était produit et elle lui raconta les choses sans rien cacher. À la suite d'une violente contrariété, elle avait éprouvé un étouffement. Pour respirer, elle avait fait ouvrir une fenêtre. Puis, sans penser que par cette fenêtre le froid entrait, elle était restée plusieurs heures à réfléchir, et c'était un violent frisson qui l'avait rappelé à elle. « Puis-je vous demander la cause de cette contrariété ?» Elle l'avait dite, car le docteur était plus qu'un médecin pour elle, un vieil ami. Et une fois en train, elle s'était laissée aller à son désespoir. « Comprenez-vous, docteur, une enfant en qui j'avais tant d'espérance, aimer un homme de théâtre ?» Mais à son grand étonnement, le docteur n'avait pas dit comme elle. « homme de théâtre, ce n'est pas un comédien. Et d'ailleurs, l'Église n'a-t-elle pas fait un saint d'un comédien ? Corneille a écrit Polyeucte. N'allez-vous pas l'excuser ? Avant de la condamner, il me semble qu'il faudrait savoir quel est au juste ce jeune homme. Les journaux font le plus grand éloge de ses pièces. Êtes-vous donc d'accord avec elle ? Je vous donne ma parole qu'elle ne m'a jamais parlé de lui. » Lorsqu'il se retira, après avoir fait son ordonnance pour la nuit, Ce fut lui qui parla de Faré à Geneviève, postée dans le vestibule, où elle l'attendait, inquiète, se demandant quelle part de responsabilité lui incombait dans cette crise. « Comment trouvez-vous ma tante ?»« Pas bien, le froid est si dangereux pour elle. Enfin, nous verrons demain matin. » « C'est bien le froid, n'est-ce pas, qui est la cause de ce malaise ?»« Le froid et aussi l'émotion très vive que vous lui avez causée. » »« Vous savez ?» Elle m'a tout dit. Maintenant, si, de votre côté, vous voulez faire comme elle, je pourrais peut-être vous servir. Quand deux mères désirent un mariage, il me semble qu'il doit avoir le bon droit pour lui. » Elle n'était pas en situation de refuser un appui ainsi offert. D'ailleurs, le docteur Azéma s'était toujours montré de ses amis. Enfin, comment n'aurait-elle pas été heureuse de parler de celui qu'elle aimait ? « Comptez sur moi, dit-il, lorsqu'elle fut arrivée au bout de son récit. Demain, je plaiderai votre cause et la sienne. Il inspire une vive sympathie, il est charmant. » « Si vous saviez... » « J'espère que je saurai. Rentrez près de votre tante et soignez-la bien. » Le surlendemain, Mademoiselle de Puylaurens avait une fluxion de poitrine et son état était assez caractérisé pour que le médecin ne pût pas la lui cacher. D'ailleurs, c'était la cinquième et elle savait à ne pas se laisser tromper quelle était la symptomatologie de cette maladie, comme disent les médecins. Ce fut même elle qui l'annonça au docteur Azéma lorsque, le matin, il lui fit sa première visite. « Je crois que j'ai une fluxion de poitrine, mon cher docteur. » Pouvez-vous dire cela ? J'en suis sûre, je le sens, je m'y connais. Après examen, le médecin déclara que c'était, en effet, une fluxion de poitrine, mais qu'elle était très légère et qu'elle ne présenterait aucune gravité. Enfin, je peux mourir ? Mais non. Vous savez bien que la mort n'a en soi rien d'effrayant pour une chrétienne. Ce qui m'épouvante, c'est la pensée de ce qu'il adviendra de cette pauvre enfant. Il est évident que mieux aurait valu qu'elle fût mariée. Elle ne l'est pas. Pourquoi ne la mariez-vous pas? En aurais-je le temps? Si vous acceptiez celui qu'elle aime. Ce n'est pas possible. Avant de dire ce n'est pas possible, ne faudrait-il pas le connaître? Ce que je sais de lui me suffit. Le médecin n'osa pas insister, mais en sortant du château, il monta au presbytère et mit le curé au courant de ce qui se passait. « Les scrupules de Mademoiselle de Puylaurens me paraissent légitimes, » dit celui-ci. « Peut-être le sont-ils en effet jusqu'à un certain point, mais l'avenir de cet enfant doit, il me semble, passer avant tout. Mademoiselle de Puylaurens est gravement malade, elle peut mourir. Sans doute elle peut guérir aussi, mais enfin elle est en danger. Qu'elle meure, que deviendra la fortune qu'elle laisse à Geneviève et qui sera administrée par Monsieur de Mussidan ?» Cela est effrayant. Pourquoi n'a-t-elle pas épousé, monsieur le comte de Javerlac, un si bon jeune homme? Parce qu'elle en aime un autre, et c'est justement cet amour qui l'empêchera de se marier si ce n'est pas avec ce garçon. Beaucoup de talent, vous savez, un avenir superbe. Fâcheuse affaire. Si vous interveniez, mon cher doyen, à nous deux, nous déciderions sans doute Mademoiselle de Puylaurens. Voulez-vous que cette fortune soit gaspillée, que ce château soit vendu, que ce musée soit dispersé? Mariée à Ernest Faré, la petite Geneviève garderait tout ça. Elle continuerait toutes les générosités, les charités de sa tante. Encore faudrait-il savoir ce qu'est ce monsieur Faré, dit le doyen, ébranlé par ce plaidoyer chaleureux. Il faut nous hâter. On pourrait écrire. Écrire ? Télégraphier et tâcher d'avoir sur lui des renseignements précis puisés à une source qui inspire toute confiance. N'avez-vous pas à Paris quelqu'un à qui vous pourriez vous adresser? Oui, je connais des personnes sûres. Eh bien, télégraphier. Nous sommes trop les amis de Mademoiselle de Puylaurens pour ne pas la défendre, elle et sa fortune. C'est à nous d'agir pour elle et de lui faire une violence dont elle nous saura gré plus tard si elle en réchappe. En tout cas, c'est notre devoir. et j'ajoute que nous devons bien cela à cette chère petite, si bonne, si bien faite pour remplacer sa tante. Il est vrai qu'à sa naissance, elle a été bénie du Seigneur. Eh bien, alors, télégraphiez. De ce pas, je vais au télégraphe. En revenant, je m'agenouillerai à l'autel de la Très-Sainte Vierge pour lui demander le rétablissement de la santé de notre digne amie. Moi, je vais faire préparer un bon vésicatoire de 15 cm et je redescends le lui poser moi-même. Espérez-vous la sauver, mon bon ami ? 70 ans, vous savez, c'est là le grave. Enfin, agissons comme si nous devions la perdre.